Kiosque Magazine.
Jeudi 20 août 2015, et comme à tous les jeudis, c'est notre privilège et notre plaisir de vous parler d'économie et d'emploi à cette édition de Kiosque Magazine. Et quand je dis nous, je parle d'Éric de Belval et de moi-même, François Brodeur. Qu'avez-vous prévu ce matin, Éric?
Eh bien, on va commencer, cher François, par parler de la bourse. Ah, le beau rêve qu'est la bourse, hein, s'enrichir en dormant. C'est pas très moral, mais c'est pas très sûr non plus. Alors, comment faire pour minimiser les risques? S'il est tentant de savoir dénicher l'action qui va décupler en 6 mois, il est aussi prudent de diversifier ses placements pour éviter les catastrophes. C'est un excellent exercice de confrontation à la réalité. À propos de réalité, on retourne en Grèce, parce que ça, il faut continuer de bien regarder les choses. Alors, un des grands enseignements de la tragédie grecque au sens littéraire, c'est la fascination qu'on peut ressentir lorsqu'on voit la prédiction d'un oracle s'accomplir. Hein, les exemples sont connus, le plus célèbre étant celui du meurtre de son père par Œdipe. Et dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit? Malheureusement, on voit une tragédie qui s'annonce, se détaille et s'analyse facilement avec, comme dans toutes les tragédies, une perspective plutôt sinistre.
Et qui refuse de se terminer. C'est quand même
particulier. Mais ça aussi, c'est une des caractéristiques de la tragédie, ça dure. Et puis, pour finir en ce qui me concerne, eh bien, vous avez certainement entendu parler de la récente réorganisation décidée par Google et notamment de son changement de nom, Alphabet. Évidemment, les mots ont un sens. Alors, Google veut-il nous signaler qu'il est le maître des lettres, donc des mots, donc du langage? Personnellement, je frémis en pensant à la réponse que faisait le dirigeant d'Apple à qui on demandait récemment « Que voulez-vous être dans 10 ans ?» et qui répondit « Le guide ».
Pour ma part, on va parler de... Bon, imaginez-vous, j'ai pris 2 semaines de vacances, je l'admets, j'ai été égoïste, j'ai pris 2 semaines de vacances, voilà. Mais ce qui m'insulte vraiment, c'est que pendant ces 2 semaines, le monde a continué de tourner. Ce que je trouve... Finalement, franchement, négligent, c'est épouvantable. Il s'est passé des choses en Chine, on ne me l'a pas dit, on n'a pas attendu que je revienne. On en parle quand je reviens, vous allez voir que c'est assez inquiétant ce qui se passe en Chine. Amazon, il y a un texte du New York Times qui est paru et qui fait état des conditions de travail chez Amazon. Vous allez voir que c'est assez terrible. Mais pour commencer, et c'est avec ça qu'on commence dans quelques instants, on va parler de retraite en comparant le modèle québécois et le modèle ontarien dans un remarquable texte de Jean-Robert Sans-Façon. Et tout ça, ça commence tout de suite. Oui, donc, Jean-Robert Sans-Façon dans Le Devoir du 13 août. Oui, vous allez me dire 13 août, ça fait déjà une semaine. Oui, mais moi, j'étais en vacances, voyez-vous. Hein? Je le répète, là, j'étais en vacances, alors ça compte pas, j'ai le droit de le lire. Jean-Robert Sans-Façon, donc, signe un texte intitulé « Le modèle voisin sur les régimes complémentaires de retraite » et on va voir qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de... Tiens, je nommerai pas la province. Pendant que le gouvernement du Québec consacre toutes ses énergies à réduire ses dépenses sans égard aux conséquences pour le filet de sécurité sociale, celui de l'Ontario annonce les détails d'un nouveau régime de retraite obligatoire malgré l'opposition acharnée et méprisante du gouvernement Harper. Au Québec, on aime bien défendre notre modèle québécois, mais dans un contexte de lutte contre les déficits budgétaires, le dit modèle en prend pour son rhume. En fait, ce combat pour le retour à l'équilibre budgétaire sert aussi de prétexte à un autre combat plus insidieux que mène ce gouvernement pour réduire l'empreinte de l'État dans la vie économique et sociale. Pendant ce temps, en Ontario, province qui fait aussi face à d'importantes contraintes financières, le gouvernement de Kathleen Wynne accroît le salaire des aidants à domicile pour le porter à 19 $ de l'heure et vient de fournir les détails de son nouveau programme de retraite complémentaire au régime de pension du Canada, l'équivalent du RRQ, pour tous les salariés qui ne participent pas déjà à un régime d'entreprise. L'insuffisance des revenus de retraite est sujet de débat au pays depuis quelques années, puisque le tiers seulement des salariés participent à un régime d'entreprise. Si les prestations publiques du régime de pension du Canada et de la Régie des rentes du Québec, de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenus garanti suffisent pour remplacer les revenus de travail modestes des retraités du bas de l'échelle, il en va autrement de ceux de la classe moyenne qui n'ont pas eu la chance de participer à un régime d'entreprise. Malheureusement, à cause de l'entêtement du gouvernement Harper à privilégier l'épargne privée et le volontarisme individuel à travers le CELI et le REER, la seule autre voie ouverte aux salariés est la création récente des régimes volontaires d'épargne retraite par les provinces. Des régimes auxquels les entreprises devront bientôt inscrire tous leurs employés, mais sans obligation d'y cotiser elles-mêmes et sans obligation non plus pour les employés d'y rester inscrits. Quant à la rente, elle dépendra de la bonne performance de ces régimes dont la gestion aura été confiée aux institutions financières privées. Un échec assuré. Au contraire, la loi ontarienne forcera bientôt toutes les entreprises qui n'offrent pas déjà un régime complémentaire à contribuer à part égale avec leurs employés au nouveau régime public qui versera aux futurs retraités des prestations de remplacement de 15 % de leurs revenus. Ainsi, un employé qui gagne 45 000 recevra 6 400 en sus des 11 000 du régime de pension du Canada et des 6 700 de la sécurité de la vieillesse pour un total approximatif de 24 000 pleinement indexé, soit plus de 50 % de son salaire de fin de carrière. De plus, employés et employeurs devront cotiser sur la première tranche de 90 000 de revenus, de sorte que sous la prestation de retraite du RPC-RRQ, qui ne dépasse pas 12 800 à l'âge de 65 ans présentement, elle sera bonifiée d'un montant à peu près équivalent pour un total de 32 300 en incluant la sécurité de la vieillesse, au lieu de 19 500 à l'heure actuelle. Ce n'est toujours pas suffisant. Et c'est pourquoi il faut viser le remplacement d'au moins 50 % du revenu pour tous les salariés de la classe moyenne. Mais c'est tout de même un progrès majeur. Le principal obstacle à la mise sur pied du régime ontarien est à Ottawa, dont le premier ministre Stephen Harper se vante ouvertement de mettre des bâtons dans les roues du projet de Mme Wynne, qualifié faussement de hausse de taxes pour la classe moyenne. Or, comme l'Ontario ne gère pas lui-même sa caisse de retraite, il a besoin d'Ottawa et du régime de pension du Canada pour recueillir les cotisations, gérer les actifs et distribuer les prestations. Autre difficulté, sans la collaboration du fédéral et des autres provinces, le système des pensions publiques canadien risque de partir dans toutes les directions, alors que la mobilité de la main-d'œuvre appelle à une harmonisation au moins partielle entre les régimes, comme ce fut le cas jusqu'ici au Québec pour le RPC-RRQ. Au Québec, le gouvernement Couillard ne montre aucun intérêt pour la solution ontarienne, pas plus que pour toute autre forme de bonification du régime des rentes du Québec, dont il contrôle pourtant tous les rouages grâce à la Régie des rentes et à la Caisse de dépôt. Libéral de nom peut-être, mais de plus en plus conservateur dans la pratique, malheureusement. Et c'est donc la quadrature du cercle. Plus qu'on le voit, au Québec, on a les outils, mais pas la volonté politique, alors qu'en Ontario, on a la volonté politique de régler le problème des régimes complémentaires de retraite, mais pas les outils, puisque ça relève du gouvernement fédéral. Assez désespérant. On a tous eu des beaux-frères. Moi, j'ai beaucoup de sœurs. J'ai beaucoup de beaux-frères, je vous le dis franchement. On a tous eu des beaux-frères à un moment donné à Noël qui vous parlent des rendements de leur régime de pension. Ils vous parlent toujours de leur rendement. Ils ne vous parlent jamais de leur perte. Par contre, leurs bons coups, ils sont toujours là pour les citer, leurs mauvais un peu moins. Il faut penser risque quand on pense passe-plein.
Oui, vous avez raison. Et c'est vrai que ces beaux-frères, là, déguisés en Père Noël, sont peut-être sujets à caution. Mais que vous disposiez d'un portefeuille boursier ou que vous soyez tenté d'entrer dans ce grand casino qu'est la bourse...
Comme n'importe quel Chinois.
oui, il faut savoir garder la tête froide, d'abord. Mais surtout, il faut savoir évaluer les risques. Alors, ça a intéressé un journaliste qui n'a pas signé des affaires... qui a écrit un article qui s'appelle « Quelles sont les sources du risque dans votre portefeuille ?» Alors, je ne sais pas s'il a eu peur d'être traqué par des investisseurs mécontents, mais en tout cas, cette analyse est intéressante, je vous la lis.
En fait, c'est parce que je vous reprends parce que ça vient de texte Internet. Il y avait un pseudo, il signe sous le nom de Morningstar.
Oui, c'est ça, Morningstar. Oui, je n'ai pas voulu citer le pseudo, mais j'aurais peut-être dû, vous avez raison, Morningstar. Alors, je pensais que la bourse, parfois, c'était Evening Dark, un truc comme ça, mais bon. La façon dont l'argent est réparti entre les différentes catégories d'actifs d'un portefeuille, souvent appelé budgétisation du capital, se concentre principalement sur les rendements. Pourtant, selon Perry Tepperson, vice-président de Leight Weller à Vancouver, on devrait aussi songer à ce que l'on appelle la budgétisation du risque. Vous devez comprendre d'où vient le risque dans votre portefeuille et quel impact il pourrait avoir, surtout en période difficile, lorsque l'on se soucie plus du risque que du rendement, dit M. Tepperson, qui est entré à Leith Whaler en 2004, après 13 ans passés comme actuaire et conseiller en investissement. Le risque total d'une perte en capital est habituellement celui qui est le plus pressant pour un investisseur particulier, et il faut donc savoir d'où vient ce risque. Les catégories d'actifs apportent-elles un niveau de risque équivalent ou y en a-t-il une qui soit plus risquée? Il faut vous poser la question suivante. Comment cela peut-il affecter mon portefeuille en période difficile? Monsieur Tepperson affirme qu'en général, les investisseurs sont plus focalisés sur la question du rendement. Ils ont tendance à se demander comment construire un portefeuille de manière à obtenir un certain rendement. Toutefois, on a perdu de vue la question du risque parce que pas mal d'eau a coulé sous les ponts depuis la crise financière de 2008, dit M. Teperson, originaire d'Afrique du Sud et détenteur d'un baccalauréat en sciences des affaires de l'Université du Cap. Et nous nous trouvons dans une conjoncture au rendement si faible pour des actifs défensifs comme les fonds de marché monétaire et les obligations que les investisseurs se tournent davantage vers les actions. Ils se demandent combien d'argent dois-je ajouter à mes placements en actions ou autres catégories d'actifs risqués pour atteindre mon rendement cible. Mais dans le cadre de leurs décisions, les investisseurs doivent aussi garder l'œil sur le risque. Dans une conversation hypothétique avec des clients sur la répartition d'actifs, dit M. Teperson, nous leur demanderions si ces obligations demeurent une composante utile de leur portefeuille et serions d'avis qu'elles le sont pour des raisons de diversification. Parler de budgétisation du risque est donc la façon la plus rapide d'engager ce type de conversation. Prenons par exemple une combinaison d'actifs de 60% d'actions et de 40% d'obligations qui connaîtrait soudain une perte de 10%. Invariablement, cette chute proviendrait de la portion en actions. Un peu plus de 90% du risque provient des actions, dit M. Teperson, citant des recherches à ce sujet alors que les obligations amortissent un peu le choc. Même si les obligations constituent 40% du portefeuille, elles ne contribuent pas beaucoup au risque en période de tension. Et de fait, cela se confirme lorsqu'on examine les rendements de son portefeuille pendant la crise de 2008. On a vu des rendements positifs provenant des obligations provinciales et fédérales canadiennes et probablement des rendements négatifs des obligations de sociétés et à haut rendement. Mais les résultats ont été plus négatifs du côté des actions. C'est la façon la plus rapide de comprendre l'origine du risque, dit M. Teperson, qui travaille en collaboration étroite avec des clients institutionnels. Il faut examiner les différentes parties d'un portefeuille, sans quoi on ne percevra pas quelle est l'origine du risque. Déterminer le degré de risque dans votre portefeuille n'est pas une tâche facile. Si votre composante en actions consiste en fonds négociés en bourse du marché général, vous pourrez évaluer le risque parce que le risque systématique, appelé bêta, peut être mesuré. Pourtant, il est beaucoup plus difficile de quantifier le risque lié à une gestion active, ou alpha, parce qu'il diffère considérablement des investissements passifs qui pistent l'ensemble du marché. La plupart des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de fonds de pension ne creuseraient pas plus cette question. Ils choisiraient les meilleurs gestionnaires que l'on puisse trouver. Quelquefois, ils choisiraient des gestionnaires qui offrent le type de gestion du risque qu'ils recherchent. Un gestionnaire axé sur la valeur, par exemple, peut avoir de meilleurs résultats en marché baissier. Voilà un moyen d'incorporer ce type de décision plutôt que de se livrer à tout un ensemble de calculs mathématiques sur le risque lié à une gestion active. M. Teperson admet que les investisseurs ne sont pas nécessairement intéressés par la budgétisation du risque lorsque les marchés vont bien et que leur portefeuille affiche des rendements solides. Pourtant, ils ne devraient pas céder à la complaisance et en conclure qu'il n'y a pas de souci à se faire. En fait, c'est précisément le moment de s'interroger pour savoir si l'on est sorti de sa zone de confort ou de tolérance du risque advenant d'un marché baissier. Les gens devraient passer un peu de temps avec leurs conseillers et comprendre ce qui se passe lorsque la marée se retire. Et ils pourraient s'interroger sur les implications d'un portefeuille un peu moins risqué en période de tension. Par exemple, s'ils changeaient d'une combinaison d'actifs de 60-40 à une combinaison de 50-50, ils devraient se demander ce que cela signifierait à la fois pour les rendements et la gestion du risque en période difficile. Cela devrait leur permettre de comprendre quels sont les facteurs déterminant le risque. Alors, je ne sais pas si cet article vous aura aidé à prendre des décisions saines en matière de risque. En tout cas, il vous aura certainement éclairé sur le fait que la bourse, c'est confus. C'est confus non pas parce que c'est compliqué en soi, mais parce que la visibilité n'est pas du tout celle qu'on désirerait qu'elle soit. Enfin, je vous rappelle quand même l'adage qui reste très simple et très vrai. Il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon.
Le groupe s'appelle Les Chiens, la pièce Le risque de l'habitude. Et c'est un choix de Rémi Hermoso qui assure la mise en onde de cette émission et sa direction musicale, ainsi que sa direction morale, parce que nous autres, on parle d'économie, alors la morale, on ne va pas s'en embêter. Voilà, je l'ai dit. Je vous parlais des Chinois tout à l'heure, je ne peux pas résister à vous parler des Chinois à mon retour. J'aime parler des Chinois parce qu'en Chine, tout est plus gros, tout est plus énorme. Et là, on va voir que la Chine, c'est le nouveau péril de notre économie et ça risque d'être assez particulier. Nouvelle définition du péril jaune. Donc, si la Chine chute, le monde risque de tomber avec elle. Pourquoi faut-il s'inquiéter de la crise boursière qui secoue le numéro 2 de l'économie mondiale? C'est un texte de Christian Lausson, initialement paru dans Libération, mais repris dans Le Devoir d'hier. L'indice Shanghai Composite a connu sa plus forte baisse depuis janvier. Une chute qui traduit d'autres mots plus importants de la deuxième économie du monde. L'indice Shanghai a connu mardi sa plus forte baisse depuis janvier. Il a terminé la séance à 3748 points, en recul de 6,2%. Ça, c'est énorme. Crise boursière, crise immobilière, crise de croissance. Le modèle de développement chinois est sur la sellette. Voici pourquoi il y a une bulle boursière. Parce que c'est l'histoire d'un pays qui a une croissance déséquilibrée depuis des années et dont on annonce depuis une décennie qu'elle n'est pas durable ni soutenable. L'histoire d'un pays qui a connu une hausse irrationnelle de 150% de sa bourse en moins d'un an, résume Pierre Larouturou, oui, un de ces rares économistes qui ont prédit la crise actuelle. Qui se double de l'effondrement de la bulle immobilière et qui voit son activité reculer comme jamais depuis 25 ans, de l'aveu même du gouvernement. Les chiffres officiels parlent d'une croissance de 6 % mais le pays est au bord du gouffre. La consommation d'énergie recule, les importations régressent de plus de 15 %. Pékin a beau avoir mis 40 % de son produit intérieur brut pour relancer l'investissement en 2008, la croissance a été artificialisée. Reprenons. Il y a un an, les Chinois, enfin ceux qui en ont les moyens, commencent à déserter l'immobilier qui a connu une bulle sans précédent. Le secteur pèse plus de 15 % du PIB. Ça, c'est 2 points de plus qu'en Espagne, c'est quand même dire, parce qu'on le sait, en Europe, le marché immobilier en Espagne, ça bouffe tout pour les Espagnols. Et des millions de mètres carrés ne trouvent plus preneur. Les banques ont distribué des crédits à tour de bras, y compris pour favoriser la consommation, 2 fois plus faible que dans les économies développées. Mais une bonne partie va cette fois servir à irriguer une autre bulle, le boom dans les actions. Une partie des investissements dans l'immobilier sont réorientés vers une autre spéculation, boursière cette fois-ci. Une ruée encouragée par les autorités chinoises qui veulent gonfler la capitalisation boursière de Shanghai, la principale bourse du pays, pour tenter de faire gagner un demi-point à une croissance en chute libre. La Banque centrale de Chine baisse alors en novembre 2014 ses taux d'intérêt pour tenter de relancer l'économie. Les autorités lancent aussi une plateforme d'interconnexion boursière qui permet aux investisseurs internationaux d'accéder directement via Hong Kong à des titres cotés à Shanghai et aux Chinois d'acheter des actions cotées à Hong Kong. C'est l'explosion, à l'image de la croissance démesurée de la bourse de Shanghai. En juin 2014, elle pèse moins de 500 milliards de dollars. C'est 3 fois rien comparé aux grandes places telles New York, Londres ou même Paris. Mais Shanghai va grossir, et vite. Un an plus tard, en 2015, elle affiche fièrement 6 500 milliards de dollars. C'est 13 fois plus qu'une année auparavant. Plus de 3 fois le produit national brut de la France. Entre-temps, le pays a donc connu une ruée sans précédent de petits boursicoteurs. Plus de 22 millions de Chinois ont ainsi ouvert en mai un compte bancaire dédié aux investissements en bourse, du délire, alors que les signes du crash étaient manifestes, raconte Larouturou. La flambée a culminé avec les 5000 points atteints le 13 juin par la bourse de Shanghai. Parce que ce même 13 juin, Pékin décide d'agir. Le gendarme des marchés financiers chinois décide de limiter les recours aux opérations sur marge, opération dans laquelle un investisseur emprunte à une maison de courtage pour acheter des actions. Le jour d'après, la Commission chinoise de régulation des marchés financiers interdit également les transactions réalisées avec des fonds empruntés en dehors du circuit des opérations sur marge. Du coup, les investisseurs comme les petits porteurs commencent à se désengager. Après un an d'emballement financé en grande partie par des emprunts, le marché immobilier chinois corrige de 30 % en 3 semaines jusqu'à début juillet. 3 000 milliards de dollars de capitalisation partent en fumée, Un chiffre phénoménal, dit la Routureau. Pour éviter la panique générale, les autorités font exactement l'inverse de leur plan du 13 juin. Elles assouplissent les restrictions sur les opérations sur marge technique, rappelons-le, qui consiste à emprunter auprès d'intermédiaires financiers pour acheter des actions. Une manière de donner aux Chinois moyens la possibilité de continuer à s'endetter pour poursuivre l'aventure financière. Mais les autorités chinoises ne se contentent pas que de ça. Elles baissent les taux d'intérêt, elles gèlent les projets d'introduction en bourse, elles orchestrent la mobilisation des sociétés de courtage et des gestionnaires de fonds qui se sont engagés collectivement à acheter pour au moins 120 milliards de yuan canadiens d'actions. Elles permettent même à une société publique de financement des investissements sur marge de financer d'une ligne de liquidité directe, oui, sur la banque centrale. La bourse reprend des couleurs pendant quelques semaines avant de replonger. Le trou d'air vient rappeler que l'économie chinoise se porte beaucoup moins bien que ce que laissent entendre les autorités. La semaine dernière, les trois dévaluations successives du taux pivot du yuan au renminbi par rapport au dollar montraient que Pékin s'était résigné à sortir l'arme du taux de change pour éviter précisément un essoufflement de la conjoncture. En vain. Alexandre Delegue, professeur d'économie à l'Université de Lille, met en garde. Cette crise teste le mythe d'une élite hyper compétente et repose la question du contrat social dans ce pays. Le regard du peuple peut passer d'un équilibre entre le « vous êtes corrompu, dictatoriaux, mais compétent » à « vous êtes corrompu, dictatoriaux et en plus incompétent ». Et là, cela devient explosif, car le contrat social chinois, c'est accepter un régime autoritaire qui apporte de la prospérité. Si ce n'est plus le cas, que va faire le régime des 200 millions de Chinois de la classe moyenne qui ont investi leur épargne et ne bénéficient d'aucun filet social? Jacques Attali, sur son blog, ne dit pas autre chose. De plus, si la croissance continue de ralentir, c'est l'exode rural qui va s'essouffler, réduisant la demande de logements et menant l'immobilier à l'effondrement, ce qui détruira l'autre moitié de l'épargne de la classe moyenne, écrit-il. Et rien n'est plus dangereux pour tout régime que de ruiner sa classe moyenne, ossature de tout l'ordre social. Et d'ajouter, la manipulation du taux de change ne suffira pas à enrayer cette chute. Au contraire, même, elle peut l'aggraver en mettant la Chine en situation de dépendre du bon vouloir des spéculateurs internationaux et en incitant les autres pays à agir sur leur taux de change pour rétablir leur compétitivité. Et c'est déjà en cours d'ailleurs. Au total, la récession chinoise, si elle se confirme, entraînera celle du Brésil, qui provoquera celle des États-Unis, puis celle de la France, estime Attali. C'est déjà le cas, rappelle Pierre Larouturou. Le Japon vient d'annoncer qu'il retombe en récession, le Brésil et le Canada aussi, et la croissance vient d'être revue à la baisse aux États-Unis. Seule la France veut croire qu'elle repart. On va vers une nouvelle crise, pire qu'en 2008. On a déplacé les fauteuils sur le pont du Titanic. On n'a pas régulé le monde de la finance ni séparé les banques de dépôt et d'investissement. Et les États n'ont plus du tout les mêmes marges de manœuvre qu'il y a 7 ans, en 2008, donc. Et Attali de prévenir. Le monde s'approche d'une grande catastrophe économique. Et personne n'en parle. Voilà, alors j'espère que j'ai fait votre journée.
Quelques brèves au milieu de cette passionnante émission. Moi, je voudrais vous donner des nouvelles d'Uber. Uber qui veut faire pression sur Québec pour répliquer à l'offensive de l'industrie du taxi, évidemment, qui se manifeste contre elle. Mais les dirigeants de l'entreprise contre-attaquent et ils demandent à leurs usagers de talonner les politiciens québécois pour qu'ils légalisent leurs services. Il est temps de faire entendre votre voix pour vous assurer que Uber, demeure à Montréal, peut-on lire dans le courriel qu'Uber a fait parvenir à ses usagers montréalais ce matin. Il y a même un argument étonnant. Monsieur Guillemette, qui en est le président, soutient que des Montréalais ont abandonné leur voiture grâce à son service et que d'autres ont trouvé du travail en devenant chauffeurs après avoir perdu leur emploi.
Et puisqu'on en est à parler de véhicules, moi je vais vous parler de pétrole, puisqu'il semble que rien ne puisse freiner la dégringolade des prix du pétrole. Et je vous donne un ordre de grandeur. Hier, on a touché le 40 $ et quelques le baril. Je vous rappelle que le baril, il n'y a pas 2 ans de cela, était au-dessus de 100 $. Alors, 40 $ et quelques, c'est énorme. Et c'est encore pire pour le pétrole albertain qu'on appelle le Western Canadian Select sur le marché, puisqu'on va à aussi peu que 30 $ le baril. Et à 30 $ le baril, c'est pas rentable, les sables bitumineux. C'est carrément une perte à l'exploitation.
Il y a un autre liquide marron très rentable qui s'appelle le Coca-Cola. Et bien, figurez-vous que le géant mondial des boissons sucrées fait équipe avec d'influents scientifiques. Alors, quand je dis fait équipe, peut-être qu'il faudra ajouter quelques zéros et quelques dollars pour diffuser un message à travers, tenez-vous bien, les journaux médicaux, les conférences et les réseaux sociaux. Pourquoi faire ? Eh bien, pour dire que pour rester en bonne santé, il faut boire du Coca-Cola, ne pas se soucier des calories qu'on ingère et que le sucre n'a aucune conséquence et aucune explication dans l'obésité. C'est quand même extraordinaire, non ?
Et voilà qui conclut déjà la première moitié de cette émission. Restez à l'écoute, on vous revient avec d'autres sujets passionnants dans quelques instants.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième demi-heure où il sera question de graisse, de conditions de travail chez Amazon et aussi de Google. Mais on commence immédiatement en vous parlant de la graisse.
Oui, et du nouveau plan d'aide de 85 milliards qui vient d'être voté par les Allemands notamment et qui laisse en fait que très peu de marge de manœuvre au gouvernement de Tsipras. Une forme de tutelle que les Grecs ont déjà vigoureusement rejetée par le passé et dont le principe, comme les résultats, pose question. Alors, je vous refais pas ma métaphore sur la tragédie, mais elle soutiendra toute la lecture que, elle, je vais vous faire d'un article paru dans Challenge. Tiens, lui non plus n'était pas signé, décidément, je les collectionne aujourd'hui. L'Eurogroupe donne son feu vert à un troisième plan d'aide à la Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro ont donné vendredi 14 août leur feu vert à un troisième plan d'aide à la Grèce, d'un montant de 86 milliards d'euros maximum, qui va donner au pays l'oxygène financier dont il a besoin, mais va devoir être suivi rapidement de mesures pour résoudre le problème de la dette grecque. Le président de l'Eurogroupe, Yeroen Dijsselbloem, qu'il me pardonne, a salué un accord qui permettra à l'économie grecque de retrouver le chemin d'une croissance durable si le pays respecte les étapes prévues pour la mise en œuvre des réformes et des mesures budgétaires qui lui sont demandées. L'accord obtenu au terme de 6 heures de discussion à Bruxelles, non, c'est plutôt court, est intervenu peu après l'approbation, vendredi matin, par le Parlement grec du plan auquel sont parvenus mardi Athènes et les institutions créancières du pays. Il prévoit de nouveaux prêts pouvant aller jusqu'à 86 milliards d'euros, bon, ça fait à peu près 100 milliards de dollars, qui seront accordés à la Grèce au cours des 3 prochaines années. Je crois que ce serait complètement irresponsable de ne pas utiliser cette chance, a commenté le ministre allemand Wolfgang Schäuble, qui, malgré ses réticences initiales, a estimé qu'il s'agissait d'un bon jour. C'est un aboutissement pour la Grèce qui a fait les efforts attendus et une preuve que l'Europe est capable d'avancer sur la base des principes de solidarité et de responsabilité, a réagi le président français François Hollande. Ben, mon vieux, avec des réactions comme ça, on va aller loin, tiens. La première tranche d'aide, non, parce que quand même, il faudra mettre du contenu dans les propos officiels, ça serait mieux. La première tranche d'aide s'élèvera à 26 milliards d'euros et sera elle-même divisée en plusieurs sous-tranches. D'abord, un versement immédiat de 10 milliards placé sur un compte distinct destiné à la recapitalisation des banques grecques, comme d'habitude, allais-je dire. Bon. Puis la deuxième sous-tranche de 16 milliards d'euros commencera par un versement de 13 milliards d'ici au 20 août, suivi d'un ou plusieurs autres à l'automne en fonction de la mise en œuvre des réformes. La Grèce pourra donc honorer, aujourd'hui même, un remboursement de 3,4 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne sans avoir besoin d'un financement relais. Enfin, c'est quand même...
C'est fascinant. On leur prête de l'argent pour qu'ils puissent payer leurs dettes pour dire...
C'est bien. Non, mais voilà, c'est ça. Je te prête 100 sur lesquels tu me rembourses les 50 que je t'avais prêté avant, auxquels tu ajoutes 30 pour les intérêts, ce qui fait que tu me donnes 80. Bon, enfin bon, voilà, il te reste 20. Et puis, tu me les rembourseras sur le même mode, etc. Et donc, avec ce système à géométrie, c'est un vrai calcul géométrique, bah, vous arrivez à une catastrophe. Bon, enfin, il y a d'autres raisons d'y arriver. On va en parler un petit peu. Avant que cette aide soit déboursée, plusieurs parlements nationaux doivent approuver l'accord, le Bundestag allemand et les parlements néerlandais et autrichiens.
La Bundestag l'a fait maintenant. C'est passé, mais...
Oui, pardon, j'aurais dû le mentionner, effectivement, parce que l'article a quelques jours. L'accord est essentiel pour lever les incertitudes qui ont pesé sur la Grèce depuis 6 mois et pour retrouver la confiance, a commenté le vice-président de la Commission chargé de l'euro Valdis Dombrovski, insistant sur le fait que ce qui est important désormais, c'est la mise en œuvre complète du programme. C'est intéressant cette énumération de noms qu'on connaît plus ou moins, parce que ça remet encore en lumière le fait que vous avez une dizaine d'interlocuteurs qui se sentent chacun autorisés à prendre une décision finale sur le problème et qui ne peuvent en fait pas le faire, ce qui relance encore le problème à la fois de l'homogénéité de la décision, de sa cohérence économique, je dirais, et puis surtout... de la responsabilité qui est prise ou pas prise. Les 6 derniers mois ont été difficiles. Ils ont mis à l'épreuve la patience des décideurs politiques et encore plus celle de nos citoyens. Ensemble, nous avons côtoyé l'abîme, a commenté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, si vous en fallait encore un, voilà. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que toutes les parties ont respecté leurs engagements. Et le message de cet Eurogroupe est clair. Sur cette base, la Grèce est et restera de manière irréversible un membre de la zone euro. Je ne peux pas... arriver à ne pas revenir sur la métaphore que vous preniez tout à l'heure avec le Titanic, parce que là aussi, c'est extraordinaire. C'est dire, pendant que le bateau coule, ah, c'est, vous êtes toujours, insubmersible, évidemment, vous êtes toujours des passagers du Titanic. Hein, c'est bien quand même, vachement bien. Quant au ministre français, Michel Sapin, il a insisté sur le retour de la confiance entre les ministres des Finances de la zone euro et le gouvernement grec. Le communiqué publié par l'Eurogroupe mentionne plusieurs des sujets d'inquiétude soulevés au cours des discussions, notamment par l'Allemagne. Il précise ainsi que le futur fonds pour les privatisations devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année et collecter à terme 50 milliards d'euros, dont 6 milliards au cours des 3 premières années. Autre sujet sensible, la question de la soutenabilité de la dette grecque, que ce nouveau programme de prêt fera grimper à 200% du PIB grec, un niveau jugé non viable par le FMI qui a menacé de ne pas continuer à participer au financement des prêts sans des mesures de réduction de la dette. Le rideau tombe, les acteurs sont morts, et puis le rideau se relève et les acteurs... Écoutez, c'est ahurissant,
non ? Il faut dire ici que le FMI a pour politique absolue de ne jamais prêter de l'argent qu'on ne lui remboursera pas. On ne prête pas à perte au FMI. Alors, le résultat direct, et Christine Lagarde l'a dit souvent, c'est que la dette grecque est carrément insoutenable dans son état actuel. C'est trop. Et c'est pas vrai, comme Angela Merkel le disait, qu'on peut régler le problème en jouant sur les taux d'intérêt, les délais de remboursement, ou parce qu'à terme, ça peut juste pas fonctionner.
Absolument. Le communiqué final affirme que la soutenabilité de la dette peut être assurée grâce à un programme de réforme crédible et complet et à des mesures supplémentaires sans effacement nominal de dette. C'est exactement ce que vous venez d'évoquer, François. Et moi, je suis stupéfait de voir à quel point on peut mener de front à la fois la méconnaissance, l'hypocrisie, le fait de se mettre la tête comme une autruche dans le sable en croyant qu'on fait avancer le problème parce qu'on remue... les pattes en basculant du sable à l'arrière, pardon cette métaphore un petit peu stupide, mais vraiment c'est triste. Cet engagement semble cependant toujours pas suffisant aux yeux du FMI, c'est également ce que vous rappeliez, qui doit justement décider en octobre de sa participation financière au plan d'aide. L'accord sur la Grèce est une étape importante, mais la dette est toujours trop lourde, a insisté la directrice générale de l'institution, Christine Lagarde, qui a dû vous écouter parler, François. D'autre part, les partenaires d'Athènes sont préoccupés, à l'instar du ministre espagnol des Finances, Luis de Guindos, par le risque d'instabilité politique en Grèce. Car l'adoption vendredi par le Parlement grec du plan d'aide et des 400 pages de mesures budgétaires et structurelles qui l'accompagnent a révélé les fractures au sein de Syriza, le parti de gauche radical du Premier ministre Alexis Tsipras. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas sorti de l'auberge.
J'ai le terrible sentiment, et traitez-moi de cynique si vous le voulez, que finalement toutes ces déclarations, tous ces efforts, c'est fait pour permettre de dire dans 2 ans, dans 3 ans des politiciens européens, on aura fait tout ce qui est possible. C'est terrible. Allez, je vous parle de conditions de travail et plus particulièrement chez le plus grand vendeur de cossins par Internet et j'ai nommé Amazon. Voilà, puisque Karim Benessaye de La Presse s'est fait le relais d'un texte du New York Times qui a été publié le 18 août, donc dans les pages de La Presse. Amazon, une jungle pour ses employés. Employés constamment en pleurs, courriels envoyés à minuit exigeant une réponse, congédiement pour cause de problèmes personnels ou de maladie. Une nouvelle enquête publiée en fin de semaine par le New York Times décrit la culture de productivité inhumaine du géant du commerce en ligne Amazon. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise fondée par Jeff Bezos en 1994 est dans la controverse pour sa façon de traiter ses employés. Explication. Après avoir interviewé une centaine d'employés, anciens et actuels, la plupart sous le couvert de l'anonymat, les journalistes Jody Cantor et David Streitfeld dressent un portrait effarant de la culture de performance extrême chez Amazon. Les semaines de 80 heures y seraient fréquentes. On encourage les employés à mettre en pièces les idées de leurs collègues. Ceux qui ont le malheur de tomber malade, de faire une fausse couche ou d'avoir des enfants se voient dénigrés. Presque chaque personne avec qui j'ai travaillé, je l'ai vu pleurer à son bureau, raconte une ex-employée. Résultat, les employés passent en moyenne un an chez Amazon avant d'aller voir ailleurs. Le taux de roulement anormal est appelé « darwinisme intentionnel » par un ex-directeur des ressources humaines interviewé. Au cœur de la méthode Amazon, on retrouve une pratique controversée, le « stack ranking », le classement en pile, parfois appelé « rank and yank », classe et jette. Les employés sont constamment évalués et classés, du meilleur au plus médiocre. L'Anytime Feedback Tool permet par exemple aux employés de se plaindre de leurs collègues auprès de la direction. Chaque année, les directeurs rencontrent et placent leurs employés selon leur évaluation, mettant dehors ceux qui ont les plus mauvaises évaluations. Des employés atteints de cancer, qui ont fait une fausse couche ou eu des problèmes personnels, auraient été évalués injustement et auraient perdu leur emploi avant d'avoir pu se remettre. Amazon, écrit le New York Times, mène une expérience peu connue pour savoir jusqu'à quel point on peut mettre sous pression les employés de bureau, repoussant les limites de ce qui est acceptable. D'autres grandes entreprises comme Microsoft et General Electric ont déjà annoncé ne plus pratiquer cette forme cruelle d'évaluation. C'est loin d'être la première fois qu'Amazon est épinglé de la sorte. En août 2014, le site Gawker citait des ex-employés pour qui il s'agissait du pire employeur qu'ils aient jamais connu. L'un d'entre eux a parlé d'une expérience qui brise l'âme. En février 2014, le livre « Mindless, Why Smarter Machines Are Making Dumber Humans » décrivait les pratiques de surveillance des employés qualifiées de diaboliques par l'auteur. Cette année-là, la Cour suprême a donné raison à Amazon dans une affaire plutôt révélatrice. L'entreprise n'a pas à payer ses employés quand ils poireautent pour passer au détecteur, comme c'est la politique quand ils sortent des bureaux ou y entrent. En 2012, plusieurs reportages parlaient des conditions de travail inhumaines dans les entrepôts, notamment de la chaleur, qui a mené certains travailleurs à l'hôpital. En 2008 et 2010, ce sont les installations de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de France d'Amazon qui étaient dénoncées par les médias. La réplique au reportage du New York Times a été vive. Dans un courriel envoyé à ses subalternes, M. Bezos assure qu'il n'aurait jamais toléré des pratiques aussi dures que celles qui ont été décrites. Estimant qu'il s'agit de cas rares ou isolés, il a invité ceux qui en seraient victimes à lui écrire directement. Je pense que n'importe qui travaillerait dans une entreprise comme celle qui a été décrite par le New York Times serait fou de rester, écrit-il. Je sais que je quitterais une telle entreprise. Un autre média américain, CNN, a cependant trouvé des statistiques intéressantes qui montrent un réel malaise. Selon le site Glassdoor, qui note les employeurs, seulement 62% des employés d'Amazon recommanderaient à un ami de travailler pour son entreprise. En comparaison, ce taux est de 82% pour Apple, 92% chez Google et 81% chez Microsoft. Alors voilà qui pourrait vous faire réfléchir la prochaine fois que vous voudrez acheter un truc par Internet. Pensez à la personne qui va mettre votre cossin dans la boîte.
No sun will shine in my day today.
No sun will shine.
The high yellow moon won't come out to play. To be found.
Concrete Jungle, dans une autre version que celle qui avait été initialement enregistrée par Bob Marley. Et ça nous amène à parler de Google.
Oui, il faut...
Pas aucun rapport, mais...
Ah, mais... oui et non, parce que c'est la Bob Marley, c'est d'une certaine façon la musique du monde. Eh bien, il faut absolument suivre de près l'évolution de groupes mondiaux comme Google ou Apple. En effet, c'est pas seulement des monstres économiques, mais ce sont des géants qui ont pour but de créer des modèles sociaux, bref, des véritables États. C'est ce qu'on appelle des multinationales. Et, mais il n'y a pas d'électeurs. Ça pose peut-être un problème. Alors, ça a intéressé, la mutation récente d'Apple a intéressé Damien Leloup, un journaliste du Monde, qui a intitulé son article « Le jour où Google est devenu cyberpunk ». Ce 10 août, Google est devenu Alphabet, une opération stratégique en forme de changement de nom. Google va continuer d'exister, mais ce ne sera plus qu'une filiale d'Alphabet, une holding qui chapeautera le moteur de recherche et tous ses produits liés, mais aussi une myriade d'autres sociétés travaillant à des projets futuristes. On le savait déjà, la mise en place d'Alphabet le montre plus clairement. Google est devenu un conglomérat avec de multiples filiales et prises d'intérêt dans des domaines variés. Publicité, logiciels, systèmes d'exploitation, biotechnologie, intelligence artificielle, automobile. Dans les années 80, l'auteur de science-fiction William Gibson a remis au goût du jour un vieux mot japonais pour désigner de gigantesques conglomérats dont les produits envahissent la vie quotidienne et dominent le monde. Zaibatsu. William Gibson est l'influent fondateur d'un courant entier de la science-fiction, le mouvement cyberpunk, qui se projetait dans un futur résolument proche, dominé par des multinationales. Alphabet, il va falloir s'habituer, hein, incarne ces Zaibatsu. Comme eux, il semble être devenu incontournable dans des secteurs entiers de l'économie de dizaines de pays. Comme le SenseNet et Maas Biolabs de Neuromancien, le roman fondateur du genre, ses projets les plus révolutionnaires, et dont le succès pourrait littéralement changer le monde, touchent à l'humain, à son esprit, à son corps. Prothèse, capteur. Comme certains Zaibatsu cyberpunk, Google a aussi sa vision du monde, fondée dans le but fou d'organiser toute l'information de la planète, doublée de la promesse de ne jamais être mauvais. L'entreprise se tourne désormais vers des recherches ayant un impact sur le monde physique. Et c'est ce qui fait peur. Peur du syndrome de l'apprenti sorcier, peur d'un géant qui sait presque tout de nos vies privées, peur enfin de voir une société accusée de pratiques anticoncurrentielles et maniant trop efficacement l'optimisation fiscale devenir encore plus incontournable. Il y a aussi dans ces peurs une part de fantasme qui flirte parfois avec la théorie du complot. Google aurait un dessein secret, voudrait remplacer l'humanité par des intelligences artificielles ou encore tuer la mort. Les dessins de Google ne sont pas vraiment secrets, à défaut d'être forcément recommandables. Entreprise cotée, elle cherche avant tout à gagner de l'argent à court ou moyen terme. La restructuration en Alphabet est d'ailleurs avant tout une décision boursière et financière. Reste le cas particulier des deux fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, qui ne cachent pas leur volonté d'aller bien plus loin que la simple accumulation de milliards de dollars. Comme la famille Tessier-Ashpool, dirigeant la multinationale du même nom dans Neuromancien, ils veulent changer le monde. Eh bien, en bien, dans leurs idées, certainement. En pratique, difficile à dire. Les technologies sur lesquelles travaille Google ont le potentiel, sinon de tuer la mort, de permettre des progrès spectaculaires dans la médecine et les énergies renouvelables. Mais si ces progrès sont prisonniers de brevets les rendant inaccessibles aux plus pauvres, ou que leur utilisation est soumise à l'utilisation de produits Google, le risque est grand qu'ils accentuent les fractures nord-sud et les inégalités. Ce dont Google est déjà accusé à San Francisco, la ville la plus cyberpunk des États-Unis, théâtre de la trilogie du pont de William Gibson, et où l'entreprise a contribué à la hausse des loyers. Une autre entreprise a incarné dans les années 1980 et 1990 à la fois les craintes du grand public et la révolution technologique. Microsoft, bête noire des libertaires de la technologie, était elle aussi dirigée par un fondateur qui voulait changer le monde. Bill Gates l'a finalement fait à l'américaine par le mécénat pour lutter à grand renfort de chèques contre les maladies tropicales. Sergey Brin et Larry Page prendront peut-être le même chemin, mais ces mécènes montrent surtout que la recherche fondamentale dans des domaines aussi cruciaux que les énergies renouvelables ou la santé est de plus en plus le fait de gigantesques entreprises privées. La démission des États-Unis face aux multinationales, c'est justement un thème récurrent de tout le mouvement cyberpunk. Dans le samouraï virtuel, Neal Stephenson décrit même des États-Unis morcelés, fragmentés en une myriade d'États fantoches, chacun contrôlé par une grande entreprise. Faut-il avoir peur d'Alphabet ? Seulement si nous n'avons pas ou plus confiance dans la capacité des États à fixer les limites de ce qui est acceptable et d'investir eux-mêmes dans les recherches qui rendront peut-être demain nos vies meilleures. Se méfier de Google ou d'Alphabet est une chose, rejeter en bloc le projet technologique en est une autre. Dans l'histoire de la science-fiction, le mouvement cyberpunk marque d'ailleurs une étape cruciale à ce sujet. Après le techno-optimisme béat de l'avant-guerre, après la technophobie de la SF, science-fiction, pardon, contestataire des années 1960, le cyberpunk marquait le moment où la technologie n'était plus considérée comme une force du bien ou du mal, mais comme neutre. Aux humains de déterminer son usage. Très intéressant, ces variations de pensée sur des concepts, on peut les suivre. Le danger n'est pas là, le danger c'est de laisser de grandes multinationales se comporter comme des États et de laisser le marché devenir lui-même le vrai régulateur de la vie sur la planète, la vie sociale, de la vie financière. S'il n'y a pas une intervention pour réguler un petit peu tout ça, on va vers des catastrophes, des renforcements des inégalités et des exaltations de l'égoïsme qui ne finiront pas bien, je vous le garantis.
Et oui, la règle invisible de l'État qui tape sur les doigts de la main visible du marché. Allez, je vous ramène en Chine, puisqu'il y a une étude de l'Université Berkeley parue la semaine dernière qui sort ce chiffre absolument ravageur. La pollution en Chine est la cause directe de 1,6 million de décès par an. C'est plus de 4 000 par jour. On voit assez justement ce que les abus du marché peuvent faire à une population. C'est un chiffre effarant, voilà.
Tiens, à propos de marché... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du marché immobilier à Montréal. Alors, vous savez, je m'amuse toujours à dire, chaque fois que j'ouvre un journal, il y a un article pour dire ça monte, et puis juste à côté, un article ou dans un autre journal pour dire ça baisse. Bon, alors il paraît que le prix des maisons est en faible hausse à Montréal, et les prix sont restés en hausse en juillet, paraît-il, par rapport à l'an dernier. Bon, une progression faible par rapport au marché chaud. Où sont les marchés chauds au Canada? À Vancouver et à Toronto.
Allez, un autre indice économique absolument capital, celui-là. On connaissait l'indice économique prix du Big Mac, qui sert à mesurer en comparant le prix du Big Mac partout dans le monde. Eh bien, au Canada, il y a l'indice fée des dents. Eh oui, la fée des dents paye-t-elle assez, trop, pas assez? Eh bien, sache-le, c'est au Québec que les enfants ont la fée des dents la plus généreuse. C'est en moyenne 4,08 $ par dent, ce qui est nettement mieux que l'an dernier, parce que l'an dernier, les Québécois étaient les derniers. Alors, la fée des dents est assez instable. Voilà, je l'ai dit.
Jolie façon de mordre dans l'avenir. Vous souvenez de la devise romaine, hein, panem et circenses, bien prononcée selon la prononciation dite restituée, donc qui veut dire du pain et des jeux. Eh bien, au XXIe siècle, les marques ont bien retenu la célèbre maxime des empereurs romains, puisque face à la montée en puissance des bloqueurs de publicité et des internautes devenus allergiques aux réclames, nous en sommes, les entreprises misent sur les techniques du jeu vidéo pour mieux séduire les consommateurs. Il y a une société qui est considérée comme le parangon, le phare dans ce domaine, c'est Milka Biscuit. Et donc c'est la fameuse la vache aux taches violettes, et qui est celle qui a le plus de visibilité auprès des moins de 35 ans.
Un mot pour vous parler des exportations québécoises. Ça y est, elles décollent. Il y a eu une nette progression du niveau des exportations. On s'y attendait avec la baisse du dollar canadien consécutive à la chute des prix du pétrole. Donc, c'est un classique. Quand le prix des ressources s'effondre, l'économie industrielle du Québec et de l'Ontario repart parce que les produits sont plus abordables sur le marché mondial. La principale cause, ça demeure toutefois la solidité de l'économie américaine et le principal risque est également là.
Quelques nouvelles de l'Icard d'Apple. On en a parlé ici de temps en temps et on le voyait comme quelque chose d'un petit peu lointain. Mais il semblerait qu'elle est beaucoup plus près d'être commercialisée qu'on ne le croit. Et il est même question, des journalistes ont percé, semble-t-il, le secret. Elle est même parfaitement au point et actuellement, Apple est en train de chercher des circuits pour pouvoir la tester. Donc, des autoroutes avec les autorisations requises par les États. Mais on va bientôt voir circuler
cette voiture sans conducteur.
Absolument, qui déjà donc, est sur un marché concurrentiel puisque Google développe la sienne. Donc débarrassez-vous vite des volants, tout ça, et préparez-vous à monter dans des voitures en lisant le journal.
Allez, quelques mots pour vous parler d'un débat qui est actuellement en cours à l'Assemblée nationale du Québec. On le sait, l'acceptabilité sociale, c'est quelque chose maintenant qui fait en sorte que les grands projets économiques passent ou meurent. On l'a vu avec une mine d'uranium à cette île. On le voit encore au quotidien avec les projets de pipeline au Canada. Alors, dans la perspective de rendre les projets plus acceptables, il arrive que les entrepreneurs subventionnent les communautés. On va payer une allée de bowling, on va encourager un club de baseball local, un cercle de personnes âgées, tout ça pour faire en sorte que la compagnie ait une bonne image au sein de la communauté où elle veut faire ses affaires. Et pour les minières, eh bien, on veut plus de transparence. On veut en finir avec ces pratiques-là. Et ça, c'est à l'échelle mondiale. À Québec, ce que ça fait en pratique, c'est qu'on veut mettre en place une loi qui obligerait les sociétés minières à divulguer les dons aux communautés. Le seuil actuellement proposé, c'est 100 000 $. Si vous donnez, une minière donne 100 000 $ à un projet quelque part dans une communauté, on considère qu'elle est en train d'acheter quelqu'un. Alors, en pratique, on veut la forcer à le divulguer. Il y a des gens qui disent qu'il faut que ce soit moins que ça. Les minières disent c'est beaucoup trop, ça n'a aucun sens. Et pourquoi il y a des amendes liées à ça? L'amende serait de 250 000 $. Les Amérindiens, eux autres, ont fait une sortie en disant « Vous nous traitez de corrompus », puisque les Amérindiens s'opposent à ce que ces données-là soient rendues publiques. Notez en passant que si les données sont rendues publiques, ça permet de savoir ce que la minière X a donné à la communauté Y pour savoir ce que moi, je pourrais demander à la minière Z quand elle vient s'installer chez moi. Il y a plein d'objectifs de transparence dans tout ça. C'est un débat à suivre parce que c'est une autre culture qui est en train de s'installer. Il faut le voir, les grands projets économiques ont compris que maintenant, il faut acheter les gens, au moins assez de gens pour être sûr de pouvoir ouvrir.
À propos des gens qui achètent les autres, je ne sais pas si vous avez un palmarès personnel de la nouvelle la plus épouvantable de la semaine, mais moi j'en ai une, j'allais dire la nouvelle la plus répugnante, c'est l'apparition de Donald Trump dans la campagne présidentielle et sa magnifique déclaration sur le fait qu'il fallait renvoyer les enfants d'immigrés au Mexique. On attend qu'il demande à chaque Américain de sortir son flingue et de les buter, ça ira plus vite.
Oh, c'est assez excessif. Et c'est sur ces paroles lapidaires que se termine cette édition de Kiosque Magazine. On remercie Rémi Hermoso à la mise en onde. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.